Massacre à la gare. Terrible explosion à 10h20. Des dizaines de morts. Peut-être un attentat. Plus probablement l'explosion de la centrale thermique. Une du journal de Bologne, Il Resto del Carlino, le 2 août 1980.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La une du Resto del Carlino que nous venons d'entendre est en fait une grande erreur. Effectivement, il y a bien eu une terrible explosion le 2 août 1980 à la gare de Bologne. Mais cette explosion n'est pas due à l'explosion de la centrale thermique, mais bien à un attentat. Nous sommes dans le cadre de ce que l'on a appelé en Italie les années de plomb, c'est-à-dire une décennie qui débute à l'extrême fin de 1969 et qui va se prolonger au début des années 1980 et qui va véritablement ensanglanter l'Italie. C'est donc à la compréhension de cette période terrible traversée par la péninsule que je vous propose de réfléchir aujourd'hui. Comprendre les années de plomb, c'est d'abord essayer de comprendre le contexte dans lequel cette période s'est opérée. Nous sommes à un moment de grande mutation de la société italienne. La ruralité traditionnelle qui avait dominé le pays jusqu'au milieu des années 1960 est en forte diminution, au profit d'une population urbaine qui ne cesse de grandir à vitesse extrême dans les années 50 et 60, avec des faubourgs mal équipés et qui sont construits à la va-vite pour accueillir cet exode rural qui a vu les populations se déplacer, en particulier du Midi vers le nord de l'Italie. D'autre part, il y a eu aussi la massification de l'enseignement supérieur. En 1960, l'Italie compte 268 000 étudiants, contre 935 000 en 1975. Or, cette massification de l'enseignement supérieur ne permet pas, de manière systématique, de déboucher à un emploi. D'où des frustrations. De nombreux étudiants sont effectivement frustrés par le fait qu'après leurs examens, après leur doctorat éventuellement, ils ne peuvent trouver dans la société un emploi qui soit à la hauteur de leur engagement universitaire. Ensuite, les mouvements sociaux se multiplient à partir de ce qu'on a appelé l'automne chaud de 1969. Effectivement, l'Italie connaît une série de grèves importantes et entre 1970 et 1974, l'Italie perd 1746 journées de travail pour fait de grève, alors que la France n'en perd que 300 et surtout l'Allemagne fédérale, mais qui a une toute autre culture de la négociation salariale, n'en perd que 90. Donc il y a bien une crise sociale, une crise morale qui touche l'Italie en ce début des années 70. D'autre part, il y a également une remise en cause des valeurs de l'Italie d'après-guerre. On conteste l'allié américain. Une partie de la jeunesse italienne devient extrêmement anti-américaine dans le cadre de la guerre du Vietnam, de ce contexte de la guerre du Vietnam. Et il est vrai que la visite du président Richard Nixon au début du mois de mars 1969 provoque des troubles importants et des manifestations impressionnantes autour de l'ambassade des États-Unis à Rome. De même, on conteste l'autorité de l'État. L'État avait été valorisé évidemment par le fascisme. Ce qui fait que, après la chute du régime fasciste, et donc avec l'instauration de la République italienne, le mot « État » était, je dirais, pollué, c'est-à-dire qu'il avait été trop marqué, trop connoté par le fascisme. Et néanmoins, une partie des Italiens conteste l'autorité de cet État. Et très vite, le mot « fascisme » est utilisé un peu d'ailleurs à sens et à contresens. On conteste également ce qu'on appelle le parlementarisme bourgeois. Une partie de l'extrême gauche italienne, empreinte de léninisme et de maoïsme, estime que ce parlement, qui est le cœur de la démocratie politique italienne, est le lieu finalement des tractations, des négociations, des arrangements entre amis, et que c'est finalement le produit d'un régime bourgeois. Inversement, l'extrême droite, néofasciste, déteste ce système républicain et parlementaire parce que justement, il est démocratique. D'autre part, on conteste aussi le système capitaliste. Il s'agit d'une partie de l'extrême gauche, mais aussi de l'extrême droite, de contester le régime capitaliste sur le plan économique et de le détruire. Il n'y a pas que l'autorité de l'Église elle-même qui est contestée. L'Église a été un pilier important de la vie publique italienne depuis fort longtemps, et en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on conteste l'autorité de l'Église, les règles morales, sa structure, sa hiérarchie, etc. Ce qui fait que, véritablement, on peut dire que l'Italie de ce temps est dominée par une contestation. Et cette contestation va aboutir à la violence politique, d'une part du côté de l'extrême gauche, mais également de l'extrême droite. Finalement, l'Italie de la Dolce Vita va bien connaître une violence politique. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare! Dipinto di blu, felice di stare lassù. Ainsi, il y a donc une violence politique. Examinons d'abord cette violence politique de la part de l'extrême gauche. À la fin des années 1960, se développent des petits groupes liés au marxisme-léninisme, comme Potere Operaio, Avanguardia Operaia, Lotta Continua et, très peu de temps après, Brigate Rosse, c'est-à-dire les Brigades Rouges. Pour ces groupes, il s'agit de contester donc l'ordre bourgeois, le système capitaliste, la République démocrate chrétienne, puisque cette République est dominée par le parti qui est le premier parti italien de l'époque. Quelle est leur stratégie ? Il s'agit finalement progressivement de toucher l'État. Alors on va le toucher en faisant des attentats contre ses représentants. On tue des magistrats, des carabiniers, des policiers, y compris même des gardiens de prison qui sont des collaborateurs de l'État répressif. On s'en prend également à des journalistes, à des syndicats. Évidemment, cette opération est ciblée. On essaye finalement de toucher les représentants les plus symboliques de l'État italien. Les Brigades Rouges ont d'ailleurs lancé, à partir de 1975, une opération au cœur même de l'État. Leur grand succès, si j'ose dire, c'est l'enlèvement et l'exécution d'Aldo Moro. Effectivement, le 16 mars 1978, un commando des Brigades Rouges parvient à enlever celui qui a été président du Conseil, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, et qui est alors le président de la démocratie chrétienne et le probable futur président de la République. Après avoir séquestré pendant 55 jours Aldo Moro, eh bien, ces geôliers vont l'abattre froidement le 9 mai 1978 et le mettre dans un fourgon, dans un coffre de Renault 4 qu'ils vont laisser au centre de Rome. C'est à la fois le zénith des Brigades Rouges et le début de leur déclin, parce que la société italienne n'a pas compris du tout cette exécution de sang-froid. Mais il y a également un très grand danger de l'autre côté, vers l'extrême droite, car il y a toute une série de groupes néofascistes comme Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Fronte Nazionale, qui veulent remettre en cause le principe même de la démocratie. Il s'agit pour eux de créer des tensions jusqu'à l'instauration d'un pouvoir autoritaire. Ils sont d'ailleurs peut-être soutenus par quelques éléments des services de sécurité italiens, voire même quelques éléments au sein du commandement de l'OTAN. Effectivement, il s'agit au moins de parvenir à une proclamation d'un état de siège, ou au plus, de parvenir au modèle grec. Car effectivement, en 1967, l'armée grecque a pris le pouvoir à Athènes, c'est le pouvoir des colonels, et a établi une dictature militaire. Pour créer les situations permettant cette dictature, eh bien, on a une série d'attentats. En voici quelques-uns, mais je suis loin d'être exhaustif. Le 12 décembre 1969, il y a l'attentat de la Piazza Fontana à Milan, 17 morts. Le 31 mai 1972, une voiture piégée dans la province de Bolzano tue 3 carabiniers. Le 28 mai 1974, lors d'une manifestation à Brescia, une manifestation syndicale, une bombe est lancée sur le cortège, 8 morts. Le 4 août 1974, dans le train Italicus qui fait le trajet entre Rome et Munich, une valise piégée tue 12 morts. Enfin, je l'ai évoqué au début de notre chronique, le 2 août 1980, l'attentat à la gare de Bologne tue 85 personnes. Le plus jeune était un bébé, le plus âgé, un vieillard de 85 ans. Il s'agissait, vous l'avez compris, de créer une telle tension pour que finalement l'Italie bascule dans la dictature. Du 1er janvier 69 au 31 décembre 79, on a compté 241 morts et, vu la chronologie, on n'a pas pris en compte là les morts de la gare de Bologne. Néanmoins, l'Italie, dans les années 80, a réussi, sans basculer dans un régime autoritaire, à maintenir sa démocratie. Finalement, cette démocratie que l'on disait faible avait résisté à une terrible épreuve.